Mali, l'étau se resserre de plus en plus autour de Barkhane. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir dans la capitale Bamako pour demander le départ des troupes françaises du pays. C'est à l'appel du collectif pour la refondation du Mali que plusieurs centaines de manifestants ont réclamé le départ de la force Barkhane du pays. Djimil Bitar est l'un des organisateurs. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas, et ce n'est pas la peine d'insister, tout le monde a compris que l'échec de la France aujourd'hui dans le Sahel est visible. Cette politique néocolonialiste ne peut pas continuer, estime-t-il. Plusieurs manifestants estiment qu'avec plus de 5 000 hommes sur le terrain, les résultats obtenus par l'opération militaire française ne sont pas satisfaisants. Ça fait déjà 8 ans qu'ils sont là, soi-disant pour éliminer les djihadistes, mais ils sont toujours là, dit l'un. Ça empêche le développement et la cohésion en Afrique et ça déstabilise toute la sous-région. Sur des pancartes, on pouvait lire entre autres « Adieu la France » et « La refondation de l'Afrique ». Si aujourd'hui nombreuses sont les voix en France qui s'indignent de cette décision prise par les autorités d'un État souverain qu'est le Mali, ces mêmes personnages, quelle que soit leur couleur politique, devraient peut-être surtout s'intéresser au ton extrêmement arrogant et irrespectueux qui a été adopté à l'encontre du gouvernement malien par les représentants de l'establishment hexagonal, en premier lieu Sieur Le Drian ou encore Froparly, ministre française des armées. D'autre part, et ce qui est flagrant, c'est que si le chef de la diplomatie française, connu pour être un personnage de premier poids du système néocolonial france-africain et un ferme nostalgique de l'ère unipolaire, parle d'une junte illégitime en faisant référence aux autorités du Mali, ce personnage devrait peut-être surtout s'intéresser à une véritable junte qui a pris le pouvoir par la violence des groupes extrémistes, bien souvent d'obédience néo-nazie dans un pays appelé l'Ukraine. L'autre aspect qui accélère inévitablement la chute pas seulement de la France-Afrique, mais plus globalement la vision occidentale du monde en Afrique, c'est ce comportement non seulement des politicards, mais également des prétendus journalistes occidentaux qui souhaitent donner une image de population africaine incapable de faire les bons choix géopolitiques. Plus que cela, dans le monde d'aujourd'hui, les Africains ont pris une avancée considérable dans la compréhension des perspectives planétaires sur les Occidentaux, bien qu'il soit nécessaire d'indiquer que l'éveil des consciences est un processus qui touche également de très nombreux citoyens des pays de l'Occident. Et ces personnes, par ailleurs, comprennent parfaitement que la réalité multipolaire est un processus qu'il ne sera pas possible d'arrêter. Pour finir, et en ce qui concerne le risque d'une plus grande rupture encore entre l'État malien et l'establishment élyséen, il faudrait surtout faire remarquer que tout cela n'est que le résultat de l'incompétence au niveau international des élus français. Évidemment, ce sera aux citoyens de France d'en faire le jugement, le tout dans un cadre souverain, tout comme ils devront apprendre à respecter la souveraineté du Mali et de nombreuses autres nations africaines. Tout dernier point, si certains pensent qu'il sera possible de stopper la chute pour l'establishment occidental après les événements en cours au Mali, c'est qu'une fois de plus, ils se trompent très certainement. L'effet domino se poursuivra fort, vraisemblablement à d'autres endroits du continent africain, comme à d'autres endroits du monde. Il y a 2 semaines, les Américains ont monté tout un scénario dans le nord-est de la Syrie à Asaké, où ils ont fait libérer à l'aide de leurs mercenaires locaux d'IFTS des centaines de terroristes de Daesh avant de les prendre en charge et de les installer dans des déserts du centre de la Syrie contre l'armée syrienne ou tenter de les envoyer en Irak voisin pour y commettre des attentats. Voilà un scénario similaire concocté à plusieurs milliers de kilomètres de la Syrie, au nord Kivu, où des accords militaires signés entre Washington et Tshisekedi ont permis de pareilles mises en scène. RFI parle d'une attaque en provenance de l'Ouganda. Évidemment, en Syrie, c'est la coopération entre l'armée syrienne, et irakienne qui gêne les États-Unis et leurs acolytes. Ici, c'est la coopération entre l'armée congolaise et ougandaise, et il faut de quoi perturber cette coopération. D'ailleurs, le président rwandais, baromètre des politiques occidentales dans la région, s'était il y a une semaine plaint de n'avoir pas été préalablement prévenu de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda. Au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique, le président rwandais se plaint du fait que les deux pays voisins, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ne l'ont pas préalablement prévenu avant le lancement des opérations militaires conjointes qui consistent à traquer les terroristes de l'ADF. Nous n'avons été prévenus ni par la RDC, ni par l'Ouganda. Ce n'est qu'au bout d'un mois que l'on a reçu des explications, déplore Paul Kagame. Le Rwanda et toutes les autres parties prenantes aux conflits armés qui secouent la RDC depuis 3 décennies ont toujours évoqué des considérations politiques, ethniques et surtout sécuritaires pour justifier les interventions militaires répétées et le soutien aux milices locales. Pourtant, l'Est de la RDC est une des régions minières les plus riches du monde où on y trouve notamment d'immenses réserves de coltan, mais aussi de l'or et d'autres métaux précieux ou des terres rares utilisées dans les technologies numériques. Malgré le départ du président Joseph Kabila et le réchauffement diplomatique entre le Rwanda et la RDC, sous la houlette du président Tshisekedi, les incursions illégales de l'armée rwandaise sur le sol congolais se poursuivent. Le régime de Paul Kagame a su adapter sa politique étrangère et sa stratégie d'exploitation du Congo oriental face à ses homologues successifs, de Laurent Désiré Kabila à Félix Tshisekedi, en passant par Joseph Kabila. En témoignent les accords signés en juin 2021 sur l'or. Kagame a su profiter de la volonté du président Tshisekedi de renouer des relations avec lui pour réguler ce secteur et aboutir à ce que l'or congolais soit transformé dans une fonderie rwandaise. Ainsi, la prédation pourra perdurer légalement. En effet, comme on a déjà vu à travers le monde, là où les États-Unis mettent le pied, il est clair qu'il faut s'attendre à ce que des scénarios tordus apparaissent, mais d'un côté, la décision de la RDC de se rapprocher davantage d'Ouganda pourrait être un bon pas vers la neutralisation des complots US-OTAN et le renforcement des coalitions interafricaines initiées depuis le Sahel. Les dirigeants de la communauté des États ouest-africains CDAO réunis jeudi 3 février à Accra ont décidé de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina où des militaires ont pris le pouvoir le 24 janvier. Cette décision a été annoncée alors que les chefs d'État et des gouvernements des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient adopté quelques semaines plus tôt de lourdes sanctions contre le Mali en réponse au retard pris dans la tenue des élections après une transition de 18 mois. Pourquoi ce deux poids deux mesures vis-à-vis du Burkina et du Mali?
Il faut comprendre quelque chose, c'est la propagande des Occidentaux et qui déteint sur la CDAO, qui fait qu'elle présente les coups d'État militaires comme un phénomène global. En réalité, il y a des choses très différentes. Il y a par exemple en Guinée-Conakry un coup d'État mené par un officier pro-occidental lié à l'Africom et qui a chassé le régime pro-chinois et pro-russe d'Alpha Condé. Au Mali, par contre, ce sont des colonels pro-russes qui définissent une politique souverainiste, refus des missions militaires occidentales, rupture diplomatique avec Paris, alignement sur un axe qui passe par Alger, Moscou. Enfin, au Burkina Faso, il y a beaucoup qui n'ont pas encore jugé quelle est la véritable nature des officiers qui ont pris le pouvoir. Ce qui importe pour la CDAO, c'est la docilité vis-à-vis d'elle-même. À partir du moment où le Mali refuse des diktats de la CDAO, il est mal jugé. À partir du moment où les officiers du Burkina Faso sont prêts au dialogue dans les conditions que la CDAO désigne, ils ne sont pas mal vus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le coup d'État du Burkina Faso, personne n'arrive à le situer. Par exemple, il a été salué par des éléments russes importants en Afrique, comme Evgeny Prigozhin ou Alexander Ivanov, le porte-parole des officiers de sécurité, donc des paramilitaires russes en Centrafrique. Eux ont salué le coup d'État, mais à côté de ça, le ministère des Affaires étrangères russe l'a condamné. On ne sait donc pas ce qui va arriver. Il faut se comprendre que la CEDEAO n'a pas d'autonomie géopolitique. Elle est entièrement dans les mains des Occidentaux. Et les deux hommes forts de la CEDEAO, c'est le président du Ghana. Le Ghana, c'est l'État qui est le plus lié aux États-Unis en Afrique avec le Maroc. Il a fait usage d'un partenariat stratégique avec les États-Unis. Il y a quelques semaines, Molly Fils, qui est la ministre adjointe aux affaires africaines du State Department américain, est allée au Ghana pour renouveler le partenariat. Et en plus, l'armée du Ghana est aux mains de la Bundeswehr de Mme Merkel, qui notamment a formé et contrôle ses forces spéciales. Le deuxième homme fort de la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara, qui a été décrit à juste titre comme un sous-préfet français. Il est entièrement lié au régime d'Emmanuel Macron et au roi du Maroc. Et avec le roi du Maroc, Emmanuel Macron, il essaye de s'emparer depuis plusieurs années de la CEDEAO, de la monnaie projetée de la CEDEAO, l'écho, le nouveau nom tel qu'il l'a exposé du franc CFA. Voilà donc les hommes qui sont derrière les sanctions. Il y a Alassane Ouattara et le président du Ghana. Et derrière ces sanctions, c'est l'Union européenne qui est le bras armé de l'OTAN qui dirige. Il y a encore eu des sanctions qui étaient prises hier, personnelles, contre Assimi Goïta, donc le chef d'État du Mali, et contre son ministre des Affaires étrangères et contre son premier ministre. Toute cette politique, évidemment, elle vise à isoler le Mali et à empêcher l'installation des Russes en Afrique. Il est bien certain que diviser pour régner avec les différents régimes militaires, on sait déjà donc que le régime de Guinée-Conakry, c'est un régime pro-occidental, et bien entendu, ménager le nouveau régime du Burkina Faso, c'est une façon de diviser les régimes militaires dont l'unité serait évidemment mortelle pour les positions occidentales. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans les milieux panafricanistes qui soutiennent les colonels de Bamako pour leur dire de quitter la CEDEAO, de lancer une nouvelle union régionale et de quitter le franc CFA et de lancer une nouvelle monnaie. Voilà donc les enjeux qui sont en jeu. Paris est directement impliqué avec ses alliés de Bruxelles. Washington est directement impliqué.
Le gouvernement provincial du Haut-Katanga dit avoir déjoué samedi dernier une menace séparatiste des indépendantistes du mouvement Mira. Selon Joseph Aert Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial, les forces de l'ordre ont mis en déroute ces miliciens dans le territoire de Mitwaba, situé à 450 km de la ville de Lubumbashi. Une certaine d'éléments Mira avait effectivement mené une incursion dans la cité de Mitwaba le 29 janvier 2020. Ces derniers avaient l'intention de velléités séparatistes en troublant l'ordre public et le fonctionnement des institutions légalement établies. Grâce à nos forces armées et nos forces de sécurité, leurs objectifs ont été anéantis et se trouvent en débandade, explique ce vendredi dans un message Aert Joseph Kayumba, porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Le Bénin lève 70 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine. Les investisseurs du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine font confiance à la République du Bénin. L'État béninois a levé jeudi 3 février 2022 70 milliards de francs CFA, soit 115,5 millions d'euros sur le marché de l'Union. La nouvelle année 2022 démarre sous de bons auspices pour le Bénin. Le trésor public du Bénin a levé 70 milliards de francs CFA, soit 115,5 millions d'euros, sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine le jeudi 3 février 2022. Selon l'Union monétaire ouest-africaine, c'est par une somme globale de 198,463 milliards de francs CFA que les investisseurs ont soumissionné à l'émission du Bénin alors que le pays ne sollicitait que 70 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Cameroun et celui du Tchad ont organisé un forum sur la paix le 2 février 2022. La rencontre a été présidée par le ministre camerounais de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou et le ministre tchadien de la Jeunesse et des Sports Routouang Mohamed Dunga Christian. Le forum était placé sur le thème « Dialogue social et intergénérationnel, garant de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble harmonieux entre les communautés ». C'est dans un contexte marqué par les conflits intercommunautaires dans diverses localités du Grand Nord que cette initiative a vu le jour. Son objectif était de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Cameroun et au Tchad. L'État camerounais apporte sa caution à la création d'un parc industriel de 52 milliards de francs CFA à l'ouest du pays. Micheline Dessamou, fondatrice de la société camerounaise Belle Folies A, a signé une convention avec le ministre en charge de l'industrie, Gabriel Dodo Kodé, pour la création d'un parc industriel de 52 milliards de francs CFA à l'ouest du pays, selon une information publiée ce 4 février par le quotidien public Cameroun Tribune. Il s'agira d'aménager des fermes aquacoles, avicoles, de raffinage d'huile de soja et de production d'engrais. Les quantités de production n'ont pas encore été dévoilées. Le démarrage des travaux est prévu pour 2023. Selon Gabriel Dodo-Doc, ce projet permettra de réduire les importations de produits alimentaires, améliorer la productivité agricole et créer un modèle d'agriculture intelligente.